Livre 8, contenant plus de 2 jours. Chapitre 1er. Chapitre étonnamment long sur le merveilleux, et beaucoup plus long que tous nos autres chapitres, servant d'introduction à chaque livre. Comme nous allons commencer un livre nouveau, dans lequel le cours de notre histoire nous obligera de raconter les faits d'une nature plus extraordinaire et plus étonnante que ceux que l'on a vus jusqu'ici, il ne sera pas hors de propos, dans le chapitre préliminaire qui sert d'introduction, de dire quelque chose du genre d'écrit auquel on a donné le nom de merveilleux. Nous tâcherons, autant pour nous que pour les autres, de lui assigner certaines bornes, et en vérité rien n'est plus nécessaire, d'autant que sur ce sujet, les critiques les plus opposées ont du penchant à tomber dans les deux extrêmes. Car tandis que quelques-uns sont prêts à convenir avec M. Dacier, que ce qui est impossible peut cependant être probable, d'autres ajoutent si peu de foi à l'histoire et à la poésie qu'ils ne croient rien de possible ou de probable que ce qu'ils ont vu et observé eux-mêmes. Tout considéré, si l'historien veut se restreindre à ce qui est réellement arrivé et rejeter absolument toutes les circonstances de la fausseté desquelles il doit être assuré, malgré les plus fortes attestations, il pourra quelquefois tomber dans le merveilleux, mais jamais dans l'incroyable. Il excitera souvent la surprise et l'étonnement de son lecteur, mais jamais cette haine incrédule dont parle Horace. C'est donc en tombant dans la fiction que nous blessons généralement cette règle de ne jamais nous écarter de la probabilité, règle que l'historien n'abandonne que rarement, si même cela lui arrive jamais, sans perdre son caractère respectable pour prendre celui d'un romancier. Et en cela même, les historiens qui se chargent de rapporter les faits publics ont beaucoup d'avantages sur nous qui nous bornons aux scènes de la vie privée. La foi qu'on ajoute au premier est longtemps soutenue par la notoriété publique. Les actes authentiques, le témoignage unanime d'une foule d'auteurs, transmettent à la postérité les vérités qu'ils supportent, et y ajoutent encore un degré d'évidence. C'est ainsi qu'un Trajan et un Antonin, un Néron et un Caligula ont été connus et appréciés par les âges qui les ont suivis, et que personne ne doute de nos jours que ces hommes vertueux et que ces monstres n'aient été autrefois les maîtres du genre humain. Mais nous qui dessinons des caractères obscurs, qui fouillons dans les retraites les plus cachées, qui tirons nos exemples de vices et de vertus des recoins du monde les plus ignorés, nous sommes dans une position plus difficile, n'ayant ni notoriété publique, ni témoignages unanimes, ni actes authentiques pour soutenir et fortifier ce que nous avançons. Il nous convient de rester dans les bornes non seulement de la possibilité, mais encore de la probabilité, surtout quand nous voulons peindre ce qui est véritablement bon et honnête. Quant à la sottise et au crime, quelque énorme qu'il soit, on nous croira plus aisément, la méchanceté humaine ne donnant que trop de force et d'appui à cette croyance. Ainsi, nous pourrions peut-être raconter, sans beaucoup de danger, l'histoire de Fécha, qui, devant depuis longtemps son pain à la générosité de M. Darbay, et ayant reçu de lui le matin même une somme assez considérable, se cacha néanmoins dans une salle dépendante de l'église voisine, par laquelle on entrait dans son appartement, avec le dessein de s'emparer de tout ce qui restait dans le secrétaire de son ami. Il entendit de cet endroit, pendant fort longtemps, M. Darbay s'égayant à un souper qu'il donnait ce soir-là à ses amis et auquel Fécha lui-même avait été invité. Pendant tout ce temps, aucun sentiment d'amitié ni de reconnaissance ne s'éleva dans son sein pour combattre son projet. Et quand le pauvre M. Darbay eut reconduit sa compagnie hors de cette salle, Fécha sortit soudain du lieu où il était caché et, suivant doucement son ami jusque dans sa chambre, lui brisa la tête par derrière d'un coup de pistolet. On croira encore ce fait quand les os de Fécha seront aussi corrompus que son cœur. Je dis plus, on croira peut-être encore que le scélérat alla 2 jours après, avec quelques jeunes femmes, à une représentation de la tragédie d'Hamlet, et qu'il entendit, sans changer de visage, l'une d'elles, qui ne soupçonnait guère que l'assassin fût si près, s'écrier « Grand Dieu ! Si celui qui a tué M. Darbay était ici !» Il prouva en ce moment que sa conscience était plus sèche et plus dure que celle de Néron lui-même, dont Suétone nous apprend que le sentiment de son crime, après la mort de sa mère, lui devint au moment même insupportable et ne lui laissait pas un seul moment de repos, et que toutes les félicitations de l'armée, du Sénat et du peuple ne purent apaiser les terreurs qui l'obsédaient. D'un autre côté, si je vais dire à mon lecteur que j'ai connu un homme qui, par son génie pénétrant, avait trouvé le moyen d'acquérir une fortune immense en s'ouvrant un chemin qui n'avait pas été frayé avant lui, qu'il l'avait acquise en conservant la plus parfaite intégrité, et non seulement sans avoir fait le moindre tort ni la plus légère injustice à un seul individu, mais encore après avoir produit un très grand avantage pour le commerce et considérablement augmenté le revenu public, qu'il avait dépensé une partie du revenu qu'il s'était fait en annonçant un goût plus délicat que celui de la plupart des hommes dans des établissements où se trouvaient réunis l'extrême noblesse et l'extrême simplicité, qu'il en avait dépensé une autre partie avec une bonté sans égale à répandre ses bienfaits sur ceux qui n'avaient d'autres recommandations que leur mérite ou leur indigence, qu'il était extrêmement ingénieux à découvrir la vertu malheureuse, fort empressé à la soulager et tout aussi soigneux, peut-être trop soigneux, de cacher ses bienfaits, que sa maison, ses meubles, ses jardins, sa table, l'hospitalité qu'il exerçait chez lui, sa bienfaisance universelle, tout indiquait le cœur généreux du maître, tout était noble et riche, sans faste et sans ostentation, qu'il remplissait tous les devoirs de la vie avec une vertu toujours égale, qu'il était le plus pieux des hommes, le plus loyal, le plus zélé des sujets, l'époux le plus tendre, bon parent, protecteur libéral, ami chaud et constant, aussi éclairé qu'aimable dans la société, indulgent pour ses domestiques, aimant à recevoir ses voisins, charitable envers les pauvres et occupé du bonheur de l'humanité. Si j'ajoutais à toutes ces qualités les épithètes de sage, courageux, poli, et il faut en convenir, toutes les autres épithètes aimables que notre langue peut fournir, je pourrais dire sûrement « Quis credet nemo, Hercule nemo, vel duo, vel nemo. » Qui le croira? Personne. Hélas, grand Dieu, personne ou deux sages au plus. Eh bien, je connais un homme qui est tout ce que je viens de dire. Mais un seul exemple, et réellement je n'en connais pas d'autre, n'est pas suffisant pour nous justifier quand nous écrivons pour des milliers de lecteurs qui n'ont jamais entendu parler de la personne ni de rien qui lui ressemble. Des oiseaux si rares devraient être confiés aux soins d'un faiseur d'épitaphes ou de quelque poète qui pourra prendre la peine de les nicher dans un distique ou de les laisser glisser au bout d'un verre avec un air de négligence et d'abandon, sans offenser en rien le lecteur. Enfin, les faits doivent être tels qu'ils ne s'écartent pas seulement des bornes prescrites à la nature humaine et de ce que les hommes peuvent être supposés pouvoir faire avec quelque probabilité. Ils doivent encore être conformes au caractère des acteurs, car ce qui peut n'être que merveilleux et surprenant dans un homme peut devenir improbable, même impossible, si on l'attribue à un autre. Ce dernier soin, qui est absolument nécessaire, est ce que les législateurs du théâtre appellent l'art de savoir conserver les caractères. Il demande un jugement exquis et la plus profonde connaissance du cœur humain. Un excellent écrivain a fait cette remarque admirable, que la passion ne peut pas plus entraîner un homme à agir en opposition directe à ce qu'elle lui inspire, qu'un torrent impétueux ne pourrait remonter un bateau contre son courant. J'oserais ajouter qu'il est, sinon impossible, au moins improbable et tout aussi miraculeux qu'un homme agisse en contradiction absolue avec lui-même. Qu'y aurait-il de plus choquant et de plus difficile à croire que les actions les plus vertueuses d'Antonin, attribuées à Néron, ou les actions les plus criminelles de Néron, imputées à Antonin, tandis que chacune d'elles rapportée à son auteur constitue le merveilleux sans nuire à la vérité. Nos modernes auteurs de comédie sont presque tous tombés dans l'erreur que nous indiquons ici. Leurs héros sont généralement d'insignes scélérats et leurs héroïnes d'affreuses coquines pendant les quatre premiers actes. Mais dans le cinquième, les premiers deviennent de fort honnêtes gens et les secondes des femmes d'une vertu exemplaire. Et souvent, l'auteur n'a pas la bonté de se donner la moindre peine pour concilier ou justifier l'incongruité d'un changement si miraculeux. Il est vrai qu'on ne peut en assigner d'autres raisons, sinon que la pièce touche au dénouement. comme s'il n'était pas encore moins naturel qu'un scélérat se repentit au dernier acte d'une pièce qu'au dernier acte de sa vie. Ce qu'on voit arriver assez généralement à Tyburn, place où il faut convenir que se passerait très convenablement le cinquième acte de quelques-unes de nos comédies, dont les héros sont distingués, pour la plupart, par ces mêmes talents qui non seulement conduisent les hommes à la potence, mais qui les mettent encore en état d'y faire une figure héroïque. Sauf ce petit nombre de restrictions, je crois que tout écrivain peut à son gré se permettre le merveilleux, et s'il y joint le talent de se renfermer dans les bornes de la vraisemblance, plus il étonnera le lecteur, plus il attirera son attention, et plus il le charmera. Car, comme un génie de premier rang l'observe dans son cinquième chapitre du Bathos, le grand art de toute poésie est de mêler la vérité à la fiction, en sorte qu'on ne puisse séparer le merveilleux du vraisemblable. Quoique tout bon auteur se fasse un devoir de se renfermer dans les bornes de la probabilité, il n'est nullement nécessaire que les caractères qu'il peint ou les incidents qu'il raconte soient d'un genre bas et commun, tels qu'ils se rencontrent dans les rues, dans les maisons ou dans les journaux à l'article de Londres. Il ne peut pas lui être défendu de montrer des personnages ou de rapporter des faits qui peuvent bien n'être jamais parvenus à la connaissance du plus grand nombre de ses lecteurs. Pourvu que l'écrivain suive exactement les règles indiquées ci-dessus, il a fait tout ce qui dépendait de lui. Il a le droit alors d'exiger d'être cru, et le lecteur se rend coupable envers lui en ne le croyant pas. Je me rappelle qu'une injustice de cette espèce fut cause que le rôle d'une jeune personne de qualité fut condamné au théâtre, comme hors de nature, par les cris unanimes d'un auditoire fort nombreux, composé de clercs de procureurs et d'apprentis marchands. Quoi qu'il eût obtenu, avant la représentation, les suffrages d'un grand nombre de dames du premier rang. L'une d'elles, très célèbre par son esprit, ayant même déclaré assez publiquement que c'était le portrait de la moitié des jeunes personnes de sa connaissance. Chapitre 2. Dans lequel l'hôtesse fait une visite à M. Jones. Quand le lieutenant fut parti, Jones tâcha de s'endormir, mais tous ses efforts furent vains. Ses esprits avaient été trop vivement agités pour lui permettre de se livrer au sommeil. S'étant donc donné le plaisir, ou plutôt le tourment, de songer à sa Sophie, jusqu'à ce qu'il fît tout à fait jour, il appela pour qu'on lui apportât du thé. L'hôtesse elle-même profita de cette occasion pour lui faire une visite. C'était la première fois qu'elle le voyait, ou du moins qu'elle eût pris garde à lui. Mais le lieutenant l'ayant assuré que c'était sûrement un jeune homme de qualité, elle prit le parti de lui montrer tous les égards possibles. Car, à parler franchement, sa maison était de celle où l'on est fort bien traité pour son argent. Elle n'eut pas plutôt commencé à faire le thé qu'elle commença ainsi à discourir. « Hélas, monsieur, dit-elle, c'est grande pitié, à mon avis, qu'un jeune gentilhomme, aussi agréable que vous, s'avilisse au point d'aller courir le monde avec cette soldatesque. Il se donne le titre de gentilhomme, voyez-vous. Mais, comme mon premier mari avait coutume de dire, il devrait se souvenir que c'est nous qui les payons. Et sûrement, il est bien dur pour nous d'être obligés de les payer et de les nourrir comme nous-mêmes. » Imaginez-vous que j'en avais 20 la nuit dernière, sans compter les officiers. Et quant à ça, j'aimerais encore mieux les soldats que les officiers, car rien n'est jamais assez bon pour ces petits maîtres-là. Et en vérité, si je vous montrais leur compte de dépenses, hélas, monsieur, ce n'est rien du tout. J'ai 1000 fois moins d'embarras, voyez-vous, avec la famille d'un bon gentilhomme qui nous laisse 40 ou 50 shillings par nuit quand il passe, et sans la dépense des chevaux encore. Et cependant, voyez-vous, parmi tous ces grimauds d'officiers, il y en a à peine un seul qui ne s'estime autant qu'un bon seigneur qui a 500 livres sterling de revenus. En vérité, ça me fait beaucoup de bien d'entendre leurs soldats, s'empressant autour d'eux, leur crier « Votre grandeur, votre grandeur !» Vraiment, voilà une belle grandeur, avec un ordinaire à 1 shilling par tête. Et puis, si vous les entendiez jurer, voyez-vous, c'est à faire frémir des pieds jusqu'à la tête. Pour moi, je pense que rien ne peut prospérer avec de mauvais sujets comme eux. Témoin celui qui vous a maltraité d'une manière si barbare. Je comptais bien que tous les autres s'assureraient de lui, mais ils s'entendent tous ensemble. Et si vous aviez été en danger de mourir, ce qui n'est pas, grâce au ciel, autant que je puis voir, ça aurait été tout un pour ces misérables-là. Ils auraient laissé échapper l'assassin. Que le bon Dieu leur pardonne. Je ne voudrais pas, pour tout l'or du monde, avoir un tel péché sur la conscience. Mais quoique par la bonté du ciel vous ayez l'espoir de vous rétablir, il y a encore des lois que vous pouvez invoquer contre lui. Et si vous voulez confier votre affaire au procureur Small, j'oserais jurer qu'il purgera bientôt le pays de ce gueux-là. Mais peut-être l'aura-t-il déjà quitté, car cette engeance-là est ici aujourd'hui et n'y est plus demain. J'espère cependant que cela vous aura donné de l'expérience et que vous vous empresserez de retourner vers vos amis. Je vous garantis qu'ils sont tous bien malheureux de vous avoir perdu. Jugez s'ils venaient seulement à savoir ce qui est arrivé. Hélas, suivant ma petite opinion, je ne voudrais pas pour tout l'or du monde qu'ils le sussent. Allons, allons, nous savons fort bien ce qui en est. Mais si l'une ne veut pas, l'autre le voudra. Un aussi joli homme ne doit jamais manquer de femme. Si j'étais comme vous, je vous proteste que je verrais la plus belle et la plus fine se pendre avant d'aller me faire soldat pour elle. Mais ne rougissez donc pas ainsi, car en effet il rougissait extrêmement. Vous croyez peut-être, monsieur, que je ne savais rien de ce qui se rapporte à Mademoiselle Sophie. Comment, dit Jones, en se relevant, est-ce que vous connaissez ma Sophie? Si je la connais, oui, vraiment, s'écria l'hôtesse. N'a-t-elle pas souvent couché dans cette maison? Avec sa tante, je suppose, dit Jones. Voilà ce que c'est, s'écria l'hôtesse. Oui, 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 je connais très bien la vieille dame, et Mademoiselle Sophie est une jeune personne bien charmante, c'est la vérité. Oh oui, bien charmante, s'écria Jones. Oh Dieu! Pour tracer le portrait de l'ange le plus beau, l'on emprunta les traits qu'offre ma bien-aimée. Tout en elle est divin, et mon âme charmée, du ciel en sa personne, admire le tableau. Aurais-je jamais pu imaginer que vous connussiez ma Sophie? Je souhaiterais, dit l'hôtesse, que vous la connaissiez moitié aussi bien que moi. Que n'auriez-vous pas donné pour vous être trouvé assis tout près de son lit? Quel col charmant! Eh bien, ses membres délicats se sont étendus dans ce même lit où vous êtes couché maintenant. Ici? S'écria Jones. Dieu! Sophie a couché ici? Oui, oui, ici. Là, dans ce même lit. Un jour, elle a prononcé votre nom devant moi. Est-il vrai? S'écria-t-il. Aurait-elle prononcé le nom de son pauvre Jones? Non, je vois que vous me flattez. Je n'ai pas l'orgueil de le croire. Pourquoi donc? Répondit-elle. Comme j'espère être sauvé, que le diable m'emporte si je dis une syllabe de plus que la vérité. Je lui ai entendu prononcer le nom de M. Jones d'un ton également poli et modeste, je l'avoue. Mais il ne m'a pas été difficile d'apercevoir qu'elle en pensait beaucoup plus qu'elle n'en disait. « Oh, ma chère hôtesse, s'écria Jones, je ne serai jamais digne d'occuper ses pensées. Oh, elle a tout ce qui peut plaire. Quelle grâce, quelle douceur, quelle bonté! Pourquoi suis-je né assez malheureux pour avoir troublé un seul moment la sérénité de son âme? Pourquoi suis-je maudit, moi qui voudrais souffrir tous les tourments, tous les malheurs que le plus ingénieux des démons inventa jamais dans sa rage contre le genre humain, si je pouvais à ce prix lui procurer un instant le bonheur? Oui, le plus affreux supplice ne serait pas pour moi un mal si je savais seulement qu'elle fût heureuse. Eh bien, voyez-vous, je lui ai dit que vous étiez un amant fidèle. Mais je vous prie, madame, dites-moi quand et en quel lieu m'avez-vous connu, car je n'étais jamais venu ici, et je ne me souviens pas de vous avoir jamais vu. Il n'est pas possible, en effet, que vous vous en souveniez, répondit-elle. Vous étiez si petit quand je vous tenais sur mes genoux chez ce bon seigneur. Comment, chez ce bon seigneur, dit Jones, connaîtriez-vous donc le grand, le bon monsieur Allworthy? Comment si je le connais, dit-elle, et qui ne le connaît pas dans le pays? Sa réputation de bonté, répondit Jones, doit en effet s'être étendue beaucoup plus loin encore. Mais Dieu seul peut le connaître. Dieu seul peut connaître cette bonté qu'il forma d'après la sienne, et plaça sur la terre pour en être l'exemple. Les hommes sont aussi loin de connaître cette bonté divine qu'ils sont loin d'en être dignes. Mais personne n'en est plus indigne que moi. Moi qui avais été élevé par lui à un rang si fort au-dessus de mes espérances, moi, pauvre enfant illégitime, comme vous devez en être instruite, qu'il avait reçu dans sa maison, adopté et traité comme son propre fils. Oser lui déplaire par mes folies et attirer sa colère sur moi. Oui, je la mérite tout entière. car je ne serai jamais assez ingrat pour penser qu'il ait commis une injustice envers moi. Non, je méritais ce qui m'est arrivé, d'être chassé de chez lui. Et maintenant, madame, je crois que vous ne me blâmerez pas du parti que je prends de me faire soldat, surtout avec cette fortune-là dans ma poche. » À ces mots, il fit sonner sa bourse, dans laquelle il y avait fort peu d'argent, et où l'hôtesse crut en voir encore moins qu'il n'y en avait réellement. La bonne hôtesse pensa, comme on dit vulgairement, tomber de son haut à ce récit. Elle répondit froidement que chacun devait certainement savoir mieux qu'un autre ce qui convenait le plus à sa situation. « Mais écoutez, dit-elle, je crois que j'entends quelqu'un appeler. On y va, on y va. Tous nos gens ont le diable au corps. Personne n'a d'oreille ici. Il faut que je descende. Si vous avez besoin de quelque chose pour déjeuner, la fille montera. On y va. » À ces mots, et sans aucune espèce de cérémonie, elle sortit précipitamment de la chambre. Car la plus basse classe du peuple est extrêmement avare de respect. Et quoiqu'elle soit satisfaite d'en accorder gratis aux gens de qualité, elle n'en montre jamais à ses égaux sans avoir soin de se les faire payer.